Voilà, je vous propose qu'on ouvre la parole du Seigneur ensemble et que nous le fassions dans le livre de l'auteur aux Hébreux, puisque nous ne connaissons pas la personne qui a écrit, mais nous savons que ce livre est inspiré. Épître aux Hébreux au chapitre 10. Et verset 39, simplement. Le titre de la réflexion de ce matin, c'est « Rétrograde ou pas ? Suis-je un rétrograde ?» Alors, vous n'allez plus me laisser partir en vacances, d'accord ? Parce que si jamais je reviens avec des titres de prédication comme ça, vous n'allez plus me supporter. « Suis-je un rétrograde ou pas ?» Hébreux, chapitre 10, verset 39. « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La version Semeur traduit de la manière suivante. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Nous disons Amen sur la dernière affirmation et non pas sur la première. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvé, parce que nous le savons, le salut s'acquiert par la foi en Jésus-Christ. Mais l'auteur aux Hébreux signale ici, et c'est particulièrement criant dans la traduction de la Bible Semeur, c'est qu'il est possible de retourner en arrière. Et je crois que cette réalité est pour nous ce matin, parce que tout simplement la vie chrétienne est parfois bien difficile, bien éprouvante. La vie chrétienne, ce n'est pas un long chemin parsemé de pétales de roses, mais c'est une course de fond qui nécessite de l'endurance. Et parfois, tout comme le marathonien, je pense, il y a des moments où nous avons envie de retourner en arrière. Il y a des fois où nous avons envie de plier les gaules et de rentrer. Il y a des fois où finalement la vie est ainsi faite que nous avons tendance à vouloir revenir en arrière, tout comme la femme de Lot, lorsqu'elle a quitté Sodome, a jeté un regard tout à fait nostalgique en arrière. Il se peut que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous puissions avoir cette tendance. Dans notre langage, quelqu'un qui est un rétrograde, c'est quelqu'un qui a quitté l'Église, quelqu'un qui a quitté la foi. Mais nous le savons, nous pouvons être, je suis désolé d'avoir à le dire, mais celui qui est rétrograde, c'est celui qui va en arrière. Ce n'est pas simplement celui qui quitte la foi, mais c'est celui qui fait des pas en arrière. Parce qu'avant de quitter la foi, avant de, que finalement notre cœur soit éloigné du cœur de notre maître, il y a tout un cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas un processus qui est immédiat, mais c'est un ensemble de choses. La définition de rétrograder, il y en a plusieurs. Ça peut être les suivantes. Ça peut être revenir en arrière. Ça pourrait également se traduire de la manière suivante. Perdre ce que l'on avait acquis. Régresser. Ça pourrait être opposé au progrès. Ou ça pourrait être également reculer. Et rétrograder, on voit que finalement, c'est pareil. Ça peut nous concerner tous, pour chacun d'entre nous. Mais il y a des symptômes précurseurs. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'inexorable. On n'est pas tous voués à rétrograder. Rassurez-moi. Hein ? Mais au contraire, l'apôtre Paul nous exhorte à aller de progrès en progrès. Et c'est là le but de notre vie. C'est là ce que nous devons viser. C'est d'aller de progrès en progrès. Quelqu'un qui rétrograde, il y a des solutions. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jugement qui tombe un petit peu comme un couperet sur le cou d'un condamné à mort. C'est une éventualité dont chacun doit se tenir à l'abri. Il faut l'avoir, garder dans un petit coin de notre tête. Et quand on considère l'histoire de l'Église, notamment l'histoire de l'Église d'Éphèse, on se rend compte que la rétrogradation, ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur une chaise et qui ne vient plus s'y asseoir, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 5. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à des chrétiens qui sont encore en place cette chose suivante. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et qu'est-ce qui pousse l'apôtre Jean à écrire ces paroles pour le moins lapidaires? Je le vois dans vos regards effrayés. C'est quelque chose de bien plus effrayant encore. Et je l'ai choisi dans la version parole vivante. J'ai cependant un grief contre toi. C'est l'esprit qui parle. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Amen. On s'aperçoit que la rétrogradation, ce n'est pas simplement quitter un lieu, mais que rétrograder, c'est finalement être à un niveau A et décliner. Rétrograder, c'est, ici pour l'église d'Éphèse, c'est finalement avoir perdu du niveau spirituel, avoir perdu de la qualité dans l'amour pour Dieu. L'église d'Éphèse faisait énormément d'œuvres, nous le verrons tout à l'heure. C'était une église qui était posée, qui avait toutes sortes de projets, qui avait toutes sortes d'ambitions, qui était profondément établie. Mais simplement, eh bien, l'amour pour Dieu n'était plus au rendez-vous. Le zèle était devenu quelque peu mécanique. Et ici, on peut qualifier une telle attitude de cœur de rétrogradation. Ça change notre point de vue quand même sur ce qu'est un rétrograde. Personnellement, ça me fait réfléchir. Et on pourrait traduire que finalement, rétrograde, de quoi Dieu tiendra-t-il compte? Comment juge-t-on quelqu'un qui rétrograde? Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas à mon niveau. Bien souvent, comment s'évalue-t-on? On fait un petit peu comme les enfants à l'école, on prend le meilleur de la classe, et puis on se dit, il faut que je sois comme lui. Et de la même manière, dans nos esprits, qu'on le reconnaisse ou non, nous avons un standard de chrétien idéal. Pour être un bon chrétien, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois être habillé ainsi, je dois prier comme ça, je dois connaître au moins 56 versets dont je suis capable de citer les références, et bien sûr, je dois en citer un quart dans mes prières à chaque fois, mais pas toujours le même quart, sinon, voilà. Je dois connaître ma Bible à peu près sur le bout des doigts, et éventuellement dans 3 versions différentes, et si jamais je veux être au top, je dois parler le grec et l'hébreu, et comme ça, je suis un chrétien extraordinaire. Mais en réalité, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, cette notion de rétrogradation, ce n'est pas du tout ça. Ce que Dieu juge, ce n'est pas les uns par rapport aux autres, parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous sauvés par la même grâce. Mais ce que Dieu juge, c'est quelle est la courbe de progrès. Hier, j'aimais mon Dieu à 5%. Aujourd'hui, est-ce que je l'aime à 3, auquel cas j'ai rétrogradé? Ou est-ce que je l'aime à 7, auquel cas j'ai avancé? Et après-demain, est-ce que je l'aimerai à 9 ou est-ce que je retomberai à 5? C'est ainsi que doit s'analyser cette notion de rétrogradation. Et elle a donc plusieurs axes. Là, nous sommes toujours en introduction, on rentrera dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais premièrement, une base spirituelle, dans le sens où finalement, ces engagements vont depuis ce qui concerne la conversion, c'est-à-dire la base de la conversion, le salut par grâce, la repentance, cette capacité de garder et de conserver un cœur de chair, de conserver une communion avec Dieu, une relation avec Dieu? Et ça, c'est la première question que l'on peut se poser. Ai-je rétrogradé dans ma relation avec Dieu? Non pas dans ce que je ressens, mais dans ce que je crois. Dans l'amour et dans le zèle que je peux avoir pour m'approcher de lui. Second critère que nous verrons rapidement, c'est dans ma consécration. L'amour nécessite automatiquement de la consécration. Parce que j'aime ma femme, mais je passe du temps avec. Et je fais tout pour lui faire plaisir. C'est votre cas, messieurs ? Ouais, d'accord. Mesdames, vous serez peut-être meilleurs. Vous faites tout pour faire plaisir à vos maris. Oui. Bon, d'accord. Ouais. Cette notion de consécration. Est-ce que je me consacre plus aujourd'hui qu'hier ? Je reprends mon bon vieil exemple. Hier, ma consécration était à 5%. Aujourd'hui, est-elle à 7 ou est-elle à 3? Alors bien sûr, je continue. Mon troisième point, c'est en termes de valeur éthique. Ce qu'on pourrait appeler la moralité. On peut penser avoir une certaine spiritualité, mais si cette spiritualité n'est pas accompagnée de consécration et également de valeur morale, de valeur éthique, s'il n'y a pas les fruits de la repentance, alors notre spiritualité ne vaut pas. Et dans ce domaine-là, nous sommes dans une société, nous le savons, et je ne voudrais pas jouer les rabat-joies, mais où le mal est transformé en bien et où le bien est changé en mal, comme nous dit l'apôtre Paul, comme il l'écrit aux Romains. Alors bien sûr, il y a des cas, figures, des exceptions, à partir du moment où l'on est malade, à partir du moment où on commence à prendre de l'âge, à partir du moment, bien sûr, notamment pour la consécration, la donne change. Mais il n'empêche que ces trois critères, on doit les garder un petit peu dans le creux de notre cœur, en se disant, rétrograde ou pas ? Rétrograde ou pas ? Quelques domaines concernés. Ma vie de prière. Ma relation avec la parole de Dieu. Pas simplement la lecture, mais la mise en pratique. Parce que je ne veux pas être comme cet homme qui se regarde dans un miroir, qui voit de la saleté, et puis qui repart sans l'enlever. Ma motivation, ma moralité, mon assiduité, toutes ces choses-là font partie de certains critères. La liste n'est pas close. Chacun d'entre nous pourra réfléchir aux domaines qui, quelque part, ont pu rétrograder. Et la solution nous est donnée. On la verra en conclusion. Quelques textes qui évoquent des situations de rétrogradation. On l'a vu, premièrement, avec l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. On l'a vu également avec l'église d'Éphèse qui a donné une priorité trompeuse sur l'activité. L'activité a pris le pas sur la vie spirituelle pour créer une fausse sécurité. Je connais tes œuvres, dira le Saint-Esprit, je connais ton travail, ta persévérance, c'est bien, on aimerait que le Seigneur nous dise ça. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, j'aimerais bien. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, waouh, génial. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, ok. Et que tu les as trouvés menteurs, ok. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Extraordinaire ça. C'est chouette. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et bien souvent, on comble une lacune spirituelle dans notre relation avec Dieu par une forme d'activisme. Troisième chose dans laquelle on peut rétrograder, c'est qu'on peut rechuter dans de mauvais sentiments entretenus. À un moment donné, Saül va jeter un mauvais œil sur David, parce que le peuple chantait et disait « Saül a tué ses mille et David de ses 10 000. Et il va jeter un mauvais œil sur Saül, sur David. Et il va se nourrir de ces sentiments-là. Il va se nourrir d'amertume. Il va se nourrir de rancœur. Il va se nourrir de contrariété. Et toutes ces choses-là, eh bien, vont grandir dans le cœur de Saül, en parallèle avec l'orgueil, et vont faire de cet homme de Dieu, choisi par Dieu, qui dépassait tout le monde d'une tête, aussi bien physiquement que spirituellement, d'un roi apostate. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sentiments qui sont en nous peuvent nous faire chuter. Conserver de la haine, conserver de la rancœur. Ce sont des causes de rétrogradation. Pour quelle raison ? Parce que tout notre discernement est faussé derrière. Et que l'on analyse les choses au travers de ces sentiments-là. Le filtre de nos yeux, c'est notre cœur. Quand j'ai de la rancœur vis-à-vis de ma belle-mère, forcément sa cuisine sera toujours mauvaise. Quand j'ai de la rancune vis-à-vis de ma femme, tout ce qu'elle fera sera systématiquement mauvais. Quand j'ai de la colère vis-à-vis de mon patron, tout ce qu'il décidera sera forcément mauvais. Et ça, c'est valable pour tous les domaines, même les domaines qui concernent la vie spirituelle. Tout sort du cœur. Les adultères, les mauvaises paroles, les meurtres, nous dit Jésus, tout sort du cœur. Et conserver des racines d'amertume, comme dit l'auteur aux Hébreux, c'est prendre le risque à un moment ou à un autre de rétrograder. Parce que l'on ne voit plus l'amour de Dieu. On ne voit plus les merveilles de Dieu. On ne voit plus la grâce de Dieu. Mais on ne voit que les conséquences, que les rejetons de nos sentiments difficiles. Autre cause, c'est l'abandon de la grâce et la mise en place de la confiance dans les œuvres de la chair. C'est ce qui est arrivé à Saül. Tant qu'il est resté petit à ses propres yeux, il n'y a pas eu de problème. Dieu l'a mis en place comme roi de tout Israël. Mais à partir du moment où il s'est cru grand, alors, eh bien, les choses ont lamentablement chuté. L'apôtre Paul écrira aux Galates, « Vous êtes séparés de Christ avec vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Nous ne méritons rien. À partir du moment où je me mets à dire je mérite une bénédiction, je mérite que Dieu m'exauce, je mérite parce que j'ai beaucoup fait, ou je fais pour être béni. Attention, risque de rétrogradation, parce que là n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu ne nous bénit pas parce que nous faisons, mais Dieu ne nous bénit même pas parce que nous sommes, mais Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Ce n'est pas comme cela, Dieu ne fonctionne pas avec notre logique humaine. Et je ne suis pas la bénédiction, mais je suis l'auteur de la bénédiction. Je ne suis pas fidèle à la bénédiction, mais je suis fidèle au Dieu qui me bénit. Ne rejetons jamais les valeurs de la croix. Jamais. Quels sont les résultats de quelqu'un qui rétrograde ? Et c'est à cela qu'on verra finalement si nous le sommes. Wow, « Waouh, vous me détestez, vous ne m'en laisserez plus repartir en vacances. » Premier signe, la perte de la joie du salut. On se souvient du psaume 51, David qui est brisé après cette histoire avec Bathsheba, cet adultère puis ce meurtre. Qu'est-ce qu'il dira ? Rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. Vous savez, la joie du salut, elle vient d'où ? Elle vient du fait que le Saint-Esprit vit en nous. Ok ? Et le Saint-Esprit est en quelque sorte le baromètre de notre vie chrétienne. C'est lui qui nous dit « t'es chaud, t'es froid ». Un petit peu comme les enfants, lorsqu'on leur fait chercher quelque chose dans une pièce. Et à partir du moment où, dans nos vies, on avance moins, où on avance de travers, où on avance dans la mauvaise direction, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce qu'on peut se tromper, l'apôtre Paul le dira, hein, je péchais parce que j'étais inconscient du mal que je faisais. Saul de Tarse pensait bien faire. Mais Dieu va expliquer à l'apôtre Paul qu'en réalité, ce qu'il fait est mauvais. Et va le convaincre de pécher sur le chemin de Damas. Mais sur ce même chemin de Damas, souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire, Saul de Tarse, soyons cohérents, va dire. Ou ce que Dieu va dire à Saul de Tarse. Pourquoi rejambes-tu contre les aiguillons ? Vous avez entendu ? Paul, Saul, il y a des choses en toi qui te font dire que ça ne va pas dans ta foi et qu'il faut que tu deviennes Paul. Il faut que tu sois cesse d'être Saul de Tarse, il faut que tu deviennes Paul. Et les commentateurs expliquent que l'une des choses qui taraudait certainement le cœur de Saul de Tarse, c'était la mort d'Étienne. Lorsqu'il avait apporté son suffrage, son caillou blanc, et qu'il avait tenu le vêtement de ceux qui lançaient les pierres. La manière dont Étienne est mort, en utilisant les mêmes paroles que le maître, ça l'a profondément touché. La joie, la perte de la joie du salut, peut être un des signes. Il me dit, attends, attention, tu es en train de revenir en arrière. Second signe, c'est le sentiment d'amertume. On devient aigri. On devient aigri. Troisième signe, on retourne en arrière dans nos actes. C'est-à-dire qu'il y a un retour à notre caractère initial. Tout simplement pourquoi ? Parce que la chair reprend le dessus. Attendez, on a beau s'être fait baptiser, et il paraît qu'ici, là-dessous, là, il y a un baptistère et que c'est un cimetière pour notre vieille nature, hein ? Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une image, d'accord ? Vous qui êtes nouveau, c'est... Mais il y a beau y avoir cette notion-là, notre chair, elle n'est pas complètement crucifiée. Sinon, il n'y aurait pas besoin de moi. Puis d'ailleurs, et moi, je n'aurais pas besoin de ma femme. Mais, à partir du moment où je ne laisse plus le Saint-Esprit peser dans la balance de ma vie, c'est la chair qui reprend ses droits. Et de ce fait, mon caractère redevient comme avant. Et même souvent pire. Priez pour que je ne rétrograde pas. Rechute dans des anciennes passions et dans d'autres. Et dans d'autres choses. Tout d'un coup, il y a plein d'idoles qui sont en train de naître. Et ça, c'est une caractéristique typique. Notre cœur ne supporte pas le vide. Et à partir du moment où Jésus n'est plus sur son trône, où on n'est plus dans cette démarche de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'autres idoles qui germent. Il y a d'autres choses qui prennent sa place. Il y a d'autres choses qui deviennent des passions. On se trouve toutes sortes d'activités nouvelles. La chasse, la pêche, qui ne sont pas mauvaises en soi, hein. De grâce, je ne vais pas me mettre une partie de l'auditoire à dos. Hein ? Mais des choses tout à fait saines, nous le savons, peuvent tout à fait devenir des idoles. Et tout d'un coup, ça prend une proportion telle dans nos vies que Jésus diminue. Signe de rétrogradation. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ah oui ! Ah, celui-là, je l'aime bien, mais vous n'allez pas l'aimer. Je peux le dire quand même ? Ouais ? Esprit critique par rapport à ceux qui sont fidèles à l'Église. Waouh, ils en font trop ! Ou alors c'est mal fait. Bien qu'il faille du discernement, et qu'un peu de bon sens ne fasse de mal à personne, en sachant que personne n'a la science infuse, mais à partir du moment où on devient amer et un tantinet caractériel, il y a un tantinet critique vis-à-vis, d'une manière systématique, warning. En général, c'est jamais un bon signe. Mais bon, après, je peux me tromper. Défense de cause et de situation injuste. Tout d'un coup, on se met à tolérer certaines choses que l'on ne tolérait pas avant. Puis, on pourrait parler d'orgueil et d'auto-justification, mais il faut que j'arrive à des choses un peu plus positives, parce que sinon, ça serait bien triste. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces symptômes-là? Parce qu'on y passe tous. Il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Dans nos vies chrétiennes, on rétrogradera tous à certains moments. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la solution, elle nous est donnée. Tout simplement dans le texte de l'Apocalypse que l'on a lu, quasiment en introduction. Repends-toi. Est-ce que, moi, chaque fois que je lis ce texte, je suis surpris. Jamais je n'aurais eu l'idée de demander pardon à Dieu de l'avoir moins aimé. On demande pardon à Dieu dans notre concept spirituel, dans notre conception spirituelle, sur des choses tangibles. Parce que j'ai mis une claque à Bruno, je lui demande pardon. Parce que j'ai été désagréable avec Bianca, je lui demande pardon. On demande pardon pour des choses comme ça, mais jamais cela ne nous viendrait à l'idée de demander pardon pour un manque d'amour. Seigneur, je te demande pardon parce que je t'aime moins. Je te demande pardon parce que c'est vrai que je me suis laissé aller. Je te demande pardon parce que en termes de qualité et de consécration, j'ai levé le pied. Je te demande pardon parce que j'ai une langue de vipère. Je te demande pardon parce que j'ai fermé les yeux sur bien des choses. Je te demande pardon parce que j'ai été dur. Je te demande pardon parce que j'ai oublié d'aimer. Ensuite, c'est chacun d'entre nous qui voit. La liste n'est pas close. Et encore faut-il que l'on soit dans le cadre de quelqu'un qui est rétrograde. C'est pas la peine de faire du masochisme et d'aller chercher les petites bêtes là où elle n'est pas. Mais faire cette démarche, parce que la croix est toujours une évidence. Il n'y a pas de plus beau message que ça. Et je crois que la repentance, le pardon des péchés et la foi dans le fait que notre Dieu est toujours prêt à nous pardonner, eh bien, reste une évidence même après 5, 10, 15, 50 ans de conversion. Parce que, eh bien, notre Dieu nous aime toujours. Et la volonté de notre Dieu, c'est que nous allions toujours de l'avant. Mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans une démarche de rétrogradation, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans une démarche d'avancement. La volonté de ton Dieu, c'est que tu ressembles de plus en plus en Jésus. Et il a mis le Saint-Esprit en toi pour cela. Et sache une chose, c'est qu'il est possible toujours de revenir. David, eh bien, est revenu de son adultère. Abraham est revenu et remonté de l'Égypte. Et il est reparti de l'endroit où il est parti, de l'endroit où il était parti, où tout avait commencé. L'apôtre Pierre à Tibériade a retrouvé le cœur de Jésus. Et combien d'hommes, combien de femmes, eh bien, ont fait un petit peu comme le phénix de la mythologie, ont renaît de leurs cendres, tout simplement parce que la grâce de Dieu reste encore une évidence, tout simplement parce que l'amour de Jésus est encore pour nous au 21e siècle. Et on a beau chuter, on a beau tomber, on a beau partir en arrière, cela n'est pas un problème en soi. Le tout, eh bien, c'est de compter sur la main du Maître qui est mort pour nous, qui a été percé pour nous, afin que, eh bien, nous puissions revenir à lui, afin que nous puissions revenir, eh bien, sur la bonne tendance, afin que nous puissions revenir sur la pente ascendante, afin que nous puissions revenir dans la bonne mentalité. Et c'est là, finalement, la réalité du message de la grâce. La grâce, ce n'est pas une fois de temps en temps, mais la grâce, eh bien, c'est quelque chose qui imprègne nos vies. La grâce, elle prend naissance, eh bien, dans les petits détails de nos vies. Le sang de Jésus est aussi efficace pour couvrir de gros péchés que pour couvrir de petits, même si cette chose-là n'existe pas. C'est les conséquences qui sont petites. Le péché est toujours aussi grave. Quelle que soit ta tendance, la grâce de Dieu est là. La puissance du Saint-Esprit est capable de se manifester dans ton cœur. Quelle que soit ta tendance, eh bien, même si revenir comme tu étais auparavant te paraît être une montagne insurmontable, tu dis « mais j'étais jeune, j'étais beau, j'étais fort en ce temps-là ». Sache une chose. C'est que pour le Seigneur, c'est pas un problème. Simplement parce que la vie chrétienne, c'est avant tout une question de cœur. Mon frère, ma sœur, peu importe où tu te trouves, peu importe que tu sois à 50% ou à 25% dans quelque domaine que cela soit, Jésus t'aime. Et Jésus veut le meilleur pour toi. Tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur à ses yeux. Et j'ai envie de conclure par cette parole que le Saint-Esprit donnera à Ananias à propos de l'apôtre Paul, de celui qui le deviendra. J'ai trouvé en lui un instrument de choix, version la colombe. Un instrument de choix. Et je crois que en toi, et en chacun d'entre nous, il y a des instruments de choix. Des hommes et des femmes de Dieu dont le Seigneur veut se servir en sa grâce. Vous êtes quelque sorte des diamants. Je suis un diamant, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui mérite d'être taillé avec la main d'orfèvre du Saint-Esprit. Alors, rétrograder, ce n'est pas simplement être en dehors de ces lieux, mais c'est un processus. Suis-je engagé dans ce processus? Non. Vous êtes tous engagés dans un processus de croissance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va courber nos fronts. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que ta parole nous éclaire, elle nous fait du bien. Seigneur, et nous ne voulons pas revenir en arrière. Seigneur, si jamais c'est le cas d'un frère, d'une sœur, Seigneur, eh bien que ta grâce l'entoure, que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses parler à son cœur. Si c'est le cas d'un frère ou d'une sœur, eh bien que vraiment, eh bien des forces nouvelles lui soient données, que des directives précises puissent lui être données par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de bénir, de faire du bien. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, de fortifier nos vies. Que celui qui est debout prenne garde de chuter. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui, eh bien, déposeront les armes, Seigneur mon Dieu, durant la marche. Mais nous voulons, Seigneur, être dans un processus de croissance. Nous voulons être dans un processus, Seigneur, où chaque parcelle de nos vies te ressemble un peu plus. Où chaque, Seigneur mon Dieu, eh bien, seconde de nos vies te ressemble un peu plus. Nous voulons ressembler à Jésus et aller sur cette pente ascendante, Seigneur. Pardonne, Seigneur mon Dieu, nos phases de découragement. Pardonne, Seigneur mon Dieu, nos phases, Seigneur mon Dieu, de manque d'amour, nos phases d'égoïsme, Seigneur. Mais que ta grâce soit là, dans le nom de Jésus. Amen.